J'aimerais faire une première lecture avec vous dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Veiller sur la maison du Maître ». 1 Corinthiens 3, 16. Vous connaissez par cœur. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite autour de vous, avec vous, en vous. » Amen. Amen. Puis on va lire un deuxième passage qui est beaucoup plus long. Mais je sais que vous aimez la parole et que ça ne va pas vous gêner que ce soit long. Matthieu 24, 42. Et on va lire le chapitre suivant en continuant jusqu'au verset 30. 24, 42 à 25, 30. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tardera à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On passe au chapitre 25. Je vous rappelle que les numérotations, c'est pour nous aider à nous retrouver dans la Bible, mais que ça n'existe pas dans le texte original. D'ailleurs, ça commence par, après ce qui vient d'être dit, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera autre parabole, comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent en banquier, remettre mon argent en banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le contexte de ces passages, de ces paroles de Jésus, c'est la question qui est posée par les disciples pour parler des signes de la fin des temps. Et le chapitre 24 de Matthieu nous parle de tous ces signes. Vous connaissez le texte, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des faux prophètes, enfin, toute la liste est faite, toutes les calamités aussi qui viendront sur terre. Et puis il termine par l'image de ceux qui seront dans un champ, il y en a un qui sera pris, l'autre laissé, etc. Et il en vient à mettre en garde sur le fait que ben, même s'il y aura des signes, c'est pas nous surprendre. Et l'encouragement, c'est que nous soyons toujours prêts, en fait. Souvent, les gens nous posent des questions, et c'est comment qu'on peut savoir quand Jésus reviendra? Vous savez pourquoi on demande ça, en principe? C'est pour se dire, ben, quand je le saurai, je me réveillerai à la dernière minute, et je ferai tout ce qu'il faut, et pendant ce temps, comme ça, je profite. Hein. Ah, c'est des gens qui n'ont pas bien compris ce que c'est profiter de la vie. Parce que suivre Jésus, c'est pas se priver de quelque chose, c'est gagner quelque chose. Amen. Et nous devons toujours être prêts. À quoi sert-il de se poser question? De toute façon, écoutez-moi, même si vous savez quand Jésus reviendra, peut-être que ce soir, vous serez mort. Il y en a qui ça fait peur. Ah, vous inquiétez pas, j'espère que ça n'arrivera à personne. Mais, si ça doit arriver à l'un d'entre nous, est-ce qu'on est prêt? C'est stupide de vouloir calculer quand Jésus revient. Parce que de toute façon, notre vie peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. J'aimerais vous parler, comme je l'ai dit, de la maison du maître sur laquelle on doit veiller. C'est l'image, certains d'entre nous partent en vacances ou en reviennent et vous louez des maisons. Quand vous louez une maison, le propriétaire, lui, ça hantise. C'est quoi? C'est comment il va trouver la maison quand vous allez la rendre. Hein. Et je pense que ça peut nous donner une image un peu de ce que Dieu peut attendre de ce qu'on fait de sa maison. Sa maison, on l'a lu, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est en nous. Et donc, c'est de cette habitation dont on doit prendre soin afin que le propriétaire, le maître de la maison, soit content de l'état où il trouve la maison, et en particulier quand il va revenir sur cette terre. Comment? Quand Jésus va revenir ou quand il va me reprendre au ciel, dans quel état sera ma maison? C'est ça la question de la prédication ce matin. Dans quel état Jésus trouvera-t-il ma maison, mon temple, lorsqu'il reviendra, il est précisé comme un voleur. Ces trois paraboles nous donnent trois domaines de veille concernant notre maison sur lesquels nous serons attendus. La première parabole, c'est celle du serviteur fidèle et prudent. J'aime bien déjà ces qualificatifs qui sont donnés. Fidèle et prudent. Est-ce que je suis fidèle et est-ce que je suis prudent? Jésus interpelle par une question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Cette question, elle nous est posée ce matin. Et ici, dans cette parabole, ce qui nous est dit, c'est que le bon serviteur dans la maison du maître c'est celui qui veille à ce que tout le monde puisse être bien nourri. Celui qui veille à nourrir les gens qui se trouvent dans la maison. Vous avez vu dans le texte ce qu'il dit, hein ? C'est la mission qui est confiée à celui qui s'occupe de la maison. C'est de nourrir les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait une étude sur l'église et sur la maisonnée. Parce que c'est le terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament. En grec, littéralement, quand vous voyez maison, c'est la maisonnée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la maison, c'était pas, ça ne ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui. C'était rare qu'il y ait une personne seule dans une maison déjà. Et puis, ce n'était pas papa, maman et les enfants. C'était papa, maman, les grands-parents, les oncles, les tantes, les serviteurs, les servantes. Donc, c'était toute une industrie, hein, de s'occuper et de gérer une maison. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est responsable de la maisonnée. Et dans cette maison, nous avons la responsabilité de pouvoir nourrir. Alors on a dit, la maison, c'est mon cœur. C'est moi. Donc de quoi je me nourris ? Ça peut être la première question que je vous pose. De quoi je me nourris ? C'est quoi la nourriture à laquelle je viens me rassasier dans ma vie ? C'est important. Il y a beaucoup de choses qui nous nourrissent. Surtout dans ce 21e siècle, qui est le siècle de l'image, de l'audiovisuel, où nous passons beaucoup de temps sur les écrans. De quoi nous nourrissons-nous ? C'est important, c'est une bonne question. Mais je pense que ça peut vouloir dire aussi que nous devons nourrir et élargir notre cœur, parce que même si notre maison c'est nous, nous vivons pas en autarcie, nous vivons pas sur une île déserte tout seul. Notre maison, elle est une maison d'accueil. Ma vie, c'est une vie d'accueil, c'est une terre d'accueil pour tous ceux qui m'entourent. En premier lieu, ma famille. Est-ce que je m'occupe de nourrir ma famille ? Je parle aux parents qui ont des enfants à la maison, en bas âge. Est-ce que vous prenez soin de nourrir ceux qui sont dans votre maison ? C'est la mission que Dieu vous confie. Et quand Jésus reviendra, c'est une chose qu'il regardera. Est-ce que vous étiez en train de nourrir ceux qui sont dans votre maison ? Et nourrir, ça ne signifie pas seulement leur donner leur steak haché et leurs frites. Bien sûr qu'il faut aussi que vous nourrissiez vos enfants. Il y a même de la meilleure nourriture que celle que je viens de citer. Mais c'est bien sûr de la nourriture spirituelle dont on parle. Lorsque nous travaillons parmi les enfants, soit pendant les colos, quand les animateurs, les animatrices s'occupent des gibes, vous savez, on voit rapidement si les enfants sont nourris ou pas nourris. Les enfants, ça fait des années que leurs parents fréquentent l'église, ils ne connaissent rien sur la Bible. Vous avez des enfants, chaque fois que vous posez une question, ils ont déjà répondu avant que vous ayez posé la question. Et amen, que tous les enfants soient comme ça dans l'église, ça voudra dire que les parents exercent leur responsabilité. Est-ce que nous nourrissons aussi les personnes qui viennent dans notre église ? Dans notre maison, pardon. Les gens que nous côtoyons, quelle nourriture nous leur donnons ? Quelles sont nos paroles ? Quelles sont nos paroles vis-à-vis des inconvertis ? Est-ce que nous avons des paroles de paix, des paroles de bénédiction, des paroles de reconnaissance ? Ah, si on est comme ça, je vous avertis qu'ils vont s'apercevoir que vous avez un problème. Tout de suite, hein. Mais parfois, que Dieu nous pardonne, nous participons à des discussions, et nous participons à des discours, et nous ne nourrissons pas bien notre entourage. Une maison digne de ce nom, c'est une maison où on peut venir manger et se restaurer. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ? Si vous êtes accueilli pendant 3 jours chez quelqu'un, et il ne dresse jamais la table, et il ne vous donne pas à manger, vous allez dire quoi ? Ah, bonjour l'hospitalité. Et je pense que si on transfère dans la dimension spirituelle, ça doit nous interpeller. Et ma maison, elle doit être grande ouverte, on l'a déjà vu, et je le répète ici, elle doit être grande ouverte, ma maison, pour accueillir des personnes et pouvoir les nourrir de la part du Seigneur. Vous ne croyez pas ? Nos maisons en Europe, et particulièrement en France, elles sont fermées à double tour. Il y a même plusieurs verrous. On avait un à chaque extrémité de la porte. Si on pouvait mettre des verrous du côté des gonds, on le ferait aussi. Et le résultat, c'est qu'il y a peu de gens qui franchissent le seuil de notre maison. Et c'est tellement dommage. Nos maisons doivent être ouvertes pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en particulier. Pour que nous puissions leur témoigner et les nourrir. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors qu'on est dans l'année de la moisson, ça vous interpelle ou pas? Une maison digne de ce nom, c'est une maison où on peut manger et se restaurer. C'est une maison ouverte, qui est accueillante. Amen. Dans ma maison, il y a des cultes de famille. Dans ma maison, il y a des réunions de maison. « Ah, mais moi, je n'organise pas de réunions de maison. » Oui, mais les réunions de maison informelles, ça existe. Hein. Vous êtes obligé qu'on organise tout à l'église? Ah, si c'est pas organisé par l'église. Mais écoutez-moi, si vous organisez des moments où vous invitez des frères et sœurs et des inconvertis en même temps pour pouvoir parler du Seigneur, vous faites une réunion de maison. Oui ou non? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait d'abord les chants, la prédication. Non, c'est un lieu où on échange et on parle du Seigneur. Amen. La deuxième parabole, je ne fais pas une analyse profonde des paraboles, mais juste, c'est voir la grande ligne pour nous interpeller sur ce sur quoi nous allons être attendus lors du retour du Seigneur. La deuxième chose dont il nous est parlé, c'est de l'huile. Dans la parabole des dix vierges, vous l'avez remarqué. La maison doit être un lieu où brille la lumière de Dieu. Amen. Comment on fait pour faire briller la lumière de Dieu dans notre maison? Ah, vous pouvez acheter des néons, vous pouvez acheter des halogènes, tout ce que vous voulez. Hein. Ça ne fera pas briller la lumière de Dieu. Ce qui fait briller la lumière de Dieu, c'est l'onction du Seigneur sur notre vie. Amen. C'est l'onction du Seigneur sur notre vie. Commencer dans ma vie, c'est quoi? Est-ce que c'est le chantier, là, à l'intérieur? Est-ce que c'est le chantier? Est-ce que c'est le bazar? Ou est-ce que c'est propre? Est-ce que ça fait honneur au Seigneur? Je parle de l'intérieur. Ce que Dieu seul connaît et nous. Hein. Ce qu'on peut paraître. Et moi, le premier, je parais devant vous. Mais vous n'avez pas tout sur moi. Dieu seul sait tout sur moi. Sans l'onction, sans l'huile, il est impossible d'avoir une maison qui brille de la lumière de Dieu. On est d'accord avec ça? Si mon intérieur brille, mon extérieur va briller aussi. Et les gens, là aussi, vont s'en apercevoir. Ils vont s'apercevoir qu'on a un problème. Il y a quelque chose de lumineux chez cette personne. Il y a quelque chose qui résonne dans mon cœur. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Qu'est-ce que c'est qui interpelle? La présence de Jésus. L'onction, la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors nous brillons dans ce monde, forcément, puisque les ténèbres s'épaississent. De plus en plus, ce monde est plongé dans les ténèbres. Donc de plus en plus, c'est une bonne nouvelle quelque part, parce que de plus en plus, on doit nous remarquer. Oui ou non? Si tout était lumineux, vous mettez une lumière au milieu du lumineux, vous n'en apercevez pas trop. Mettez une lumière au milieu d'une pièce noire, vous allez tout de suite vous rendre compte. Quelles sont les vertus de l'huile? Le bon serviteur, c'est celui qui veille à ce qu'il y ait toujours de l'huile dans la maison. Les vertus de l'huile, elles sont... J'en ai trouvé quatre, on peut certainement en trouver d'autres. Mais la première, c'est qu'on vient de le voir, elle est claire. Elle permet la lumière, c'est le combustible pour que la lumière puisse briller. Une deuxième chose qu'elle permet, c'est de chauffer. Ça permet de chauffer aussi. L'huile permettait aussi de nettoyer. Et puis l'huile permet aussi de soigner. Vous voyez toutes ces vertus. On a vu mardi soir qu'on est des arbres et qu'on porte du bon fruit. Et que le prophète Jérémie nous parle d'un arbre avec des fruits qui sont des remèdes pour la population. Et je prie que nous puissions, non pas être nous les remèdes, mais être ceux qui indiquent où est le remède pour tous ceux qui souffrent et vont mal dans notre pays. Une maison digne de ce nom, c'est une maison où on trouve lumière, chaleur, propreté et réconfort. Amen. C'est ma maison, pas ma maison avec les murs là. C'est moi. Auprès de moi, on trouve lumière, chaleur, propreté, pureté et soin. Oh, est-ce que je suis capable de tout ça, moi? Non. Mais si tu as l'onction, mon frère, ma sœur, si ta lampe est pleine d'huile, alors tu es rendu capable. Amen. Tu es rendu capable par le Seigneur. Ne voyons pas ces choses comme des choses qu'on ne peut pas atteindre. Ce sont des choses que nous sommes appelés à atteindre. Est-ce que quand le maître reviendra, il va trouver cette maison qui est claire, qui réchauffe, qui est pure et qui soigne? C'est la deuxième question qui est posée, la deuxième interpellation au travers de la parabole des dix vierges. Attention, ne pas jouer avec le temps, parce que quand la porte sera fermée, il sera trop tard. La troisième interpellation nous est donnée au travers de la parabole des talents. Cette troisième parabole met l'accent sur là où les missions que Dieu nous confie. Dieu, alors qu'il est reparti au ciel, c'est un peu l'image de ce maître qui va parler à ses serviteurs et puis il s'en va. Il va revenir très longtemps après. C'est l'image de Jésus qui était avec ses disciples et qui monte au ciel, qui s'en va. Et dont les anges vont avertir les disciples, mais il reviendra de la même manière. Mais se déroule un certain laps de temps, la preuve, c'est qu'on attend toujours qu'il revienne. Mais avant de partir, il leur a confié une mission, vous vous rappelez? Allez, faites de tous les disciples, des nations, baptisez-les, etc. C'est une mission qui a été confiée. Et Dieu ne nous laisse pas sans nous donner une mission. Alors bien sûr, celle-là, elle est universelle, celle qu'on vient de citer, et on l'a vu dans le premier point. Nous devons être de ceux qui nourrissent, c'est-à-dire qui apportent la parole aux autres. Mais est-ce la seule mission que Dieu nous confie? Non. Dieu nous confie toutes sortes de missions. Le bon serviteur dans la maison du maître, c'est celui qui veille avec soin sur la mission que Dieu lui a confiée. C'est l'image des deux premiers serviteurs qui ont pris beaucoup de soin. Où est-ce que tu en es, mon frère, ma soeur? Est-ce que après des années, tu ne sais toujours pas ce que tu dois faire? Mais c'est quoi que Dieu, il attend de moi? Si tu en es encore là, alors vraiment, prends un temps dans la prière, dans le jeûne, et cherche la face de Dieu, parce que tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Et tu dois remplir cette mission, parce que quand le Seigneur viendra, si tu n'es pas en train de faire ce qu'il t'a demandé, ou si tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé, alors ça risque d'être compliqué. Je suis en train de lire Le Voyage du Pèlerin. J'ai toujours entendu parler, j'ai vu des sketchs là-dessus, mais je n'avais jamais lu le livre. Et dernièrement, je me suis dit, mais faudrait que je lise. Et il y a quelqu'un dans ce livre qui s'appelle Le Bon Parleur. Et il vous parle de la Bible, mais alors super bien. Il connaît tout. Et il vous fait une démonstration de ce qu'est le salut en vous citant les versets, blablabla, le gars, il vous... Mais par contre, il ne fait rien. Il parle, mais il ne fait rien. Et je crois que, bien sûr, et on n'insistera jamais assez sur le fait que le plus important, c'est ce qu'on est. C'est pas ce qu'on fait. Mais mes frères et sœurs, ce qu'on est doit déboucher sur quelque chose qu'on fait. Sinon, c'est du blabla. Sinon, c'est du vent. Et l'apôtre Jacques, je n'ai pas le temps de vous le lire, mais lisez le deuxième chapitre de l'épître de Jacques et vous verrez ce que je vous dis. Et si je résume, il nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, Mais les œuvres sont la conséquence du fait qu'on a été sauvé. Si j'ai la joie d'avoir reçu le salut, alors j'ai la joie de servir mon maître. On l'a chanté tout à l'heure, je te suivrai, je t'écouterai, je te servirai. Amen. Parfois, les blessures, les épreuves, les contrariétés peuvent nous arrêter dans les missions que Dieu nous a confiées. Nous étions en train de servir le Seigneur, nous étions en train de faire ce qu'il nous demandait, et d'un seul coup, tout s'arrête. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas arrêter. Chaque fois qu'il y aura une contrariété, chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se met en travers, c'est le diable qui vient pour vous empêcher de remplir la mission que Dieu vous a confiée. Dieu nous a confié des choses à faire en attendant son retour. Est-ce que vous en êtes conscients, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous êtes conscients que c'est d'une importance extrême ? Puisqu'il est dit que pour celui qui n'a pas rempli de mission, il n'a pas rempli la mission qui lui était confiée, il a été jeté dans les temps de feu. Est-ce que c'est notre priorité ? Est-ce que ma priorité, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire, de remplir la mission qu'il m'a confiée ? Est-ce que c'est ma priorité ? Ou est-ce que je viens voir le Seigneur en disant « Ah, ça y est, j'ai fini tout ce que j'ai à faire. T'as besoin de quoi, Seigneur ?» Des fois, c'est comme ça qu'on fait. Non, ma priorité, c'est de faire ce que le Seigneur me demande. Et après, je fais ce que j'ai à faire pour moi. Quand on en arrive là, on est réellement comme ces deux premiers serviteurs. Et remarquez que le Seigneur connaît notre situation familiale, il connaît nos contraintes. Et c'est pour ça que j'aime cette parabole des talents, c'est qu'il n'a pas donné la même chose à chacun. Il sait à qui il peut demander beaucoup, il sait à qui il peut demander un peu, et il va faire en fonction de ce que vous pouvez faire. N'ayez pas de crainte. Et vous avez remarqué que la récompense est la même pour tout le monde. D'accord ? Celui qui a fait valoir 2 talents, il lui a été dit la même chose que celui qui a fait valoir 5. Et si celui qui avait un talent avait fait la même chose, il aurait été dit la même chose. L'important, ce n'est pas la quantité de ce qu'on fait. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu ne va pas me demander quelque chose que je ne peux pas faire matériellement parce que c'est impossible, parce que j'ai ma famille à gérer, parce que j'ai mon travail, parce que j'ai mon conjoint qui n'est pas croyant, parce que j'ai fait... Il y a toutes les contraintes, Dieu les connaît, oui ou non. Donc, il va faire en fonction de ce que vous pouvez faire. Soyez bien à l'écoute. Et faites ce que Dieu vous demande de faire. On l'a vu dans la première partie, et tout à l'heure, en citant la fin de l'évangile de Matthieu, hein, allons par tout le monde. Ça, cette mission, vous ne posez pas de questions. Vous devez rendre témoignage. Vous devez amener des âmes au Seigneur. Ça, c'est la mission de tous. Et après, lisez, quand vous rentrerez à la maison, lisez la fin du chapitre 25. Vous connaissez la fin du chapitre 25 ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il parlait du jugement dernier, où les gens viendront, puis le maître, il leur dira « Ah, vous m'avez donné à manger. Ah, vous êtes venu me voir quand j'étais malade. Ah, vous êtes venu me voir lorsque j'étais en prison. Ah, j'ai... » Ah, quoi ? Nous, on a fait ça ? Oui, mais à chaque fois que tu l'as fait à un de ces plus petits, c'est comme si tu l'avais fait à moi. Si vous posez des questions sur ce que vous pouvez faire, je vous assure que la liste est longue. Il y en a des choses à faire. Allez visiter l'aveugle, allez visiter l'orphelin, allez visiter celui qui est malade, allez visiter celui ou celle qui est en prison. Oui, j'y vais cet après-midi. Le Seigneur soit béni. Et je sais que vous me soutenez, donc c'est comme si vous y alliez vous aussi. Amen. Serge y va dans les hôpitaux, mais est-ce que... Alors, en prison, tout le monde ne peut pas y aller, mais dans les hôpitaux, vous pouvez tous y aller. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, vous pouvez y aller. En particulier, si c'est un frère ou une sœur. Amen. Est-ce que nous faisons toutes ces choses ? Parce qu'il est dit, attention, si nous ne l'avons pas fait, c'est comme nous, si nous ne l'avions pas fait pour le Seigneur Jésus lui-même. Une maison où les gens à l'intérieur ne remplissent pas la mission qu'ils doivent faire, c'est une maison qui est sans vie. une maison qui est morte. Moi, j'aime bien quand je vais chez ma fille et mon gendre, il y a un petit planning sur le frigo. Avec qui doit faire quoi ? Débarrasser la table, balayer, machin. Vous avez jamais vu ce genre de planning dans les maisons ? Hein ? C'est bien quand chacun fait ce qu'il a à faire, oui ou non ? La maison, elle s'en porte bien. Quand il y en a qui font tout pour ne rien faire. Alors, mes petits-enfants ne sont pas comme ça du tout. Hein. Ils font ça avec joie, avec plaisir à chaque fois, ils râlent jamais. On est tous pareils. Il y a des choses qu'on aime bien faire, mais ce qu'on n'aime pas faire et que le Seigneur nous demande de faire, est-ce qu'on y va avec joie ? Hein ? Eh oui. Allons avec joie faire même ce qui ne nous plaît pas. Je pense si je demandais à toutes les équipes qui font le ménage dans l'église s'ils viennent avec joie faire le ménage, ils seraient partagés. Parce que dans un sens, ils vont dire oui, on vient avec joie parce que c'est pour le Seigneur qu'on fait. Mais est-ce qu'on prend plaisir à faire le ménage ? Franchement. Il y en a oui. J'ai rencontré quelqu'un qui aimait bien nettoyer même les toilettes. Il aimait bien faire briller. Ah, c'est trop bien comme famille. C'est bon, super. J'aurais pu l'embaucher. Hein. Ouais, faire le ménage, c'est parce qu'on a envie de faire. Hein. Repasser, faire toutes ces choses-là. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais il faut le faire. Et on le fait. Et on le fait, c'est mieux si on le fait avec joie. Ça se passe mieux. Amen. Est-ce que tu fais partie de ceux qui remplissent les tâches ? Qui fait ce qu'il y a à faire, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui essayent de ne rien faire, ou qui râlent à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose. Et je parle, moi, entre toi et le Seigneur. Une maison est une maison digne de ce nom si celui qui en a la responsabilité fait ce qu'il a à faire. Ok ? Si vous avez confié une maison à quelqu'un, et que la personne n'a pas fait ce qu'il y avait à faire, vous allez être déçu. Et est-ce que vous lui reconfierez la maison une deuxième fois ? Il y a des chances que non. Chaque parabole nous enseigne. J'aimerais conclure avec ce texte dans Hébreux chapitre 3, versets 4 et 6. Chaque maison... C'est d'une simplicité et d'une évidence totale la parole de Dieu, hein. Mais c'est aussi d'une efficacité redoutable. Chaque maison est construite par quelqu'un, vous êtes d'accord ? Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Et sa maison, c'est nous. Pourvu, c'est une condition, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où le Seigneur va me reprendre. Il va décider que c'est fini, les jours sont terminés sur cette terre, ou jusqu'au moment où le Seigneur va venir nous chercher. Dans chacune de ces paraboles, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une dimension de l'être différente. La première, c'est le dire, ce que je dis. Ce que je dis nourrit les autres. C'est ce que me dit Jésus dans cette parabole. Ce que je dis nourrit les autres. Et je suis responsable de nourrir ceux qu'il y a dans la maison. Moi-même en premier, mais tous ceux qui vont être en contact avec moi, qui viennent dans ma maison. La deuxième dimension, c'est l'être. Et c'est là qu'on a parlé de l'huile, de l'onction. Ce que je suis ne peut pas plaire à Dieu s'il n'y a pas l'onction. Je suis incapable par mes propres moyens de plaire à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Et on est d'accord avec ça, mais pourtant, on est capable d'être comme ces vierges folles et de se balader sans réserve d'huile. Oui ou non ? Je ne veux pas ça. Je veux ma réserve d'huile. Elle est où ma réserve d'huile ? dans mon face-à-face avec Dieu, dans mon lieu secret, où je veux aller au moins une fois par jour, mais si ce n'est plusieurs fois par jour, pour venir chercher la face de Dieu et pour qu'il puisse luire sur moi. Et s'il luit sur moi, alors ma face va rayonner. Ma vie va rayonner là où je me trouve. Et puis le dernière parabole, ça concerne la dimension du faire. Et c'est la mission. Personne ne peut dire « je suis chrétien, mais pas pratiquant ». Vous l'avez entendu ça déjà, hein ?« Je suis chrétien, mais pas pratiquant ». Moi, c'est un truc, je me dis, mais comment on peut dire une bêtise pareille ? Comment on peut dire une bêtise pareille ? Si on est chrétien, si vraiment on est disciple de Christ, si on a compris qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, alors on ne peut pas rester sans rien dire. On va écouter son enseignement et on va mettre en pratique. C'est ça notre mission. Faire la volonté de Dieu. Je vous renvoie à Matthieu chapitre 7, vous connaissez ce fameux passage où il dit « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume de Dieu. » Et il y en a même qui se targuent et disent « Ouais, mais on a guéri des malades, on a prophétisé en ton nom. » Ah oui ? Oui, ils n'ont pas fait la volonté du Père. Ils n'ont pas rempli la mission, vous savez, on l'a vu mardi soir, de faire des miracles ou de prophétiser, de parler de la part de Dieu. Tout le monde ici peut être utilisé par Dieu à un moment donné, il peut même utiliser un inconverti. Le fait qu'il nous utilise ne veut pas dire qu'on est prêt à quoi que ce soit. S'il attendait qu'on soit prêt pour nous utiliser, il ne nous utiliserait pas. C'est ça. Il a utilisé, on l'a rappelé mardi soir, un âne. Pour parler. C'est écrit, hein. Donc c'est pas parce qu'on a fait des choses. L'important, et ça nous renvoie à quelque chose d'important, c'est ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est ce que je recherche à chaque instant ? Et c'est important. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis dans cet ordre. Certains auraient dit « Ah non, mais moi, il faut mettre l'onction en premier, hein, parce que le plus important, c'est l'onction quand même. Tout le reste découle de l'onction, et c'est vrai. Pourquoi le nourrir, le dire avant ? Peut-être aussi parce que ben, faut pas attendre d'être parfait pour pouvoir témoigner. Puis le Seigneur, on a l'exemple de la Samaritaine, la femme Samaritaine, peut témoigner au travers de quelqu'un qui n'est pas encore loin de l'esprit. N'attendez pas d'être des super parfaits pour dire oh, « je vais rendre témoignage quand je serai parfait » parce que pour l'instant, vu comme je suis, je ne sais pas s'il faut mettre un ordre. Tout ça s'entremêle et tout ça va ensemble. Amen. Et je pense que tout ça est indissociable l'un de l'autre. Et on ne peut pas dire « ah moi je m'occupe juste d'un des points ». Les trois points sont nécessaires. Amen. Je terminerai juste, et loin de moi l'idée de vouloir vous faire peur. Et je crois que la Bible nous avertit. Le Saint-Esprit nous avertit. Et il nous avertit parce qu'il nous aime. Comme un parent qui dit, attention, si tu fais telle chose, tu vas te brûler, ou tu vas tomber, ou tu vas... Tu vas pas te brûler, toi, Jérémy ? Ah, en touchant les chaises, ça va aller. Mais fais attention des fois. Est-ce que vous croyez que le Seigneur nous avertit par amour ? Il n'est pas là pour nous terroriser. Mais en même temps, il est là pour nous dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je trouve ces textes qu'on a lus assez durs à certains moments. Vous avez vu ce qu'il est dit du méchant serviteur, là, comparé au fidèle et prudent ? L'autre là, qui a commencé à partager avec les ivrognes et tout ça, qui n'a pas pris soin de la maison. Vous avez vu ce que le maître, il en fait ? C'est dur, hein ? Il le met en pièces. Ils nous disent, oh non, faut pas faire peur, faut pas dire aux gens qu'il faut leur dire que Dieu les aime. Oui, mais il faut aussi dire aux gens que s'ils ne sont pas prêts, ils iront en enfer. Et quand on regarde dans chaque parabole, il est donné, et ça c'est important, il n'est pas donné en premier l'exemple de celui qui va aller en enfer. Il est d'abord donné l'exemple de celui qui va aller au ciel. Et Dieu ne veut pas nous instruire par la négative. Ils veulent nous instruire par l'encouragement. Ils disent, voilà ce que vous devez faire pour aller au ciel. Mais il avertit quand même, pour ceux qui ne feront pas les choses, le sort qui leur est réservé. Et on voit que ce soit le serviteur méchant, que ce soit les vierges folles, que ce soit le serviteur qui a reçu un talent, tous connaissent le même sort. La porte du ciel leur sera fermée. C'est un avertissement qui est donné par le Seigneur alors qu'il parle de son retour. Il dit attention, tous n'iront pas. Et j'aurais pu lire avant ces deux personnes qui sont dans un champ, qui labourent, et puis un part au ciel et l'autre n'est pas pris. Certains me confient parfois, « Pasteur, ne parlez pas du retour de Jésus, ne parlez pas de ça, ça me fait peur. » On me l'a déjà dit plusieurs fois et dans toutes les églises où je suis passé. Mais on ne doit pas avoir peur du retour de Jésus. On doit se réjouir du retour de Jésus. Soyons simplement des serviteurs fidèles et prudents, des vierges sages, et puis des serviteurs qui remplissent les missions que Dieu leur confie. Ne le faisons pas pour aller au ciel. Faisons-le pour honorer celui qui nous a sauvés. Quand on aime son maître, honnêtement, si on vous prête une maison et que vous aimez beaucoup la personne qui vous a prêté la maison, est-ce que vous allez lui rendre dans un état lamentable? Je ne crois pas. Personne d'entre nous ici pense ça. Et si j'aime le Seigneur, je dois veiller à ce que la maison soit toujours impeccable. Amen. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Que son nom soit béni, on va prier ensemble. Où en es-tu, mon frère, ma soeur? Où en es-tu? Peut-être tu viens pour la première fois ou des toutes premières fois dans ce lieu. Sache qu'il n'y a pas de hasard. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il t'interpelle dans le sens où la dernière chose qu'il veut, c'est que la porte du ciel te soit fermée. C'est la dernière chose qu'il veut. Il voudrait tellement que tu puisses venir avec lui au ciel pour l'éternité. C'est pour ça qu'il adresse ce message ce matin. Parce qu'il attend de recevoir chacun de nous après notre passage sur terre ou au moment où il reviendra avec lui pour l'éternité. C'est son but. Et la Bible dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Peut-être tu es juste de passage pour les vacances et tu tombes sur cette prédication. Ben, le Seigneur voulait t'interpeller, te donner rendez-vous. Où en es-tu, mon frère, ma soeur? Peut-être tu as délaissé le Seigneur ces derniers temps. Le Seigneur, dans sa bonté et son amour, te rappelle à nous. Peut-être tu fais partie de ceux qui négligent de nourrir ceux de ta maison, et en particulier tes enfants. Le Seigneur te rappelle alors ce matin. Peut-être tu fais partie de ceux qui ont négligé la réserve d'huile. Le Seigneur te rappelle alors ce matin. Peut-être tu fais partie de ceux qui ont négligé la mission. Tu es juste un chrétien qui vient à l'église, qui lit sa Bible, mais à part ça, rien de spécial dans ta vie. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il nous interpelle. S'il devait revenir aujourd'hui, dans quel état est notre maison? Dans quel état sommes-nous? Le Seigneur veut vraiment apporter ce message de grâce pour qu'aucun de nous qui avons entendu ce message ne soit perdu pour l'éternité. Et que chacun de nous puisse être pris au ciel avec lui. Amen. Que chacun de nous, pour chacun de nous, le Seigneur puisse dire bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Tu t'es bien occupé de mes affaires. Et je suis fier de toi. Et je t'amène avec moi au ciel pour l'éternité. Seigneur, gloire à toi. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces passages de l'Écriture qui nous montrent que tu as fait de nous ta maison. C'est une chose extraordinaire que moi je puisse être le temple du Saint-Esprit. Seigneur, pardon. Pardon parfois pour l'état de ma maison. Seigneur, nous nous humilions devant toi et nous voulons te demander encore ton secours. Et je veux, Seigneur, venir à la réserve pour remplir mon vase d'huile, afin que la lumière brille dans ma vie. Oh, merci Seigneur, oui. Remplis-moi de toi, Seigneur, et que je puisse remplir toutes les missions que tu m'as confiées. Que je puisse parler de toi autour de moi, que je puisse prendre soin de nourrir les miens et tous ceux qui entrent dans ma maison, tous ceux qui entrent en contact avec moi, qu'ils puissent recevoir de toi la nourriture d'en haut. Oh, merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs, de nous bénir à chacun, bénir ceux qui écouteront cette prédication sur Internet, et que ton œuvre soit faite par le Saint-Esprit dans le cœur pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu.